Vous êtes sur RTL.
Une voiture. Ils ont été pris près des mercenaires et les gendarmes saillerois les ont exécutés.
Bonsoir, bienvenue dans l'heure du crime avec au programme ce soir un mystère qui depuis 35 ans hante nos imaginations, ressurgit régulièrement dans les allées judiciaires, suscite spéculations, suppositions, révélations parfois totalement rocambolesques. Cette affaire, c'est la disparition le 6 août 1985 de Philippe de Dieuleveux avec 6 de ses coéquipiers dans les flots tourmentés du fleuve Zaïre, les rapides d'Inga. Dieuleveux, 34 ans, était alors l'une des personnalités préféré des Français, ex-présentateur télé de l'émission La Chasse au Trésor, souriant, intrépide, un modèle parfait de Tintin baroudeur et d'aventurier. Cette sépulture africaine reste aujourd'hui encore entourée d'un épais mystère. Simple noyade, enlèvement, exécution militaire, l'ombre du secret et même du secret d'État n'a jamais cessé de planer sur la disparition de Philippe de Dieuleveux. Si nous revenons ce soir sur le dossier de Dieuleveux, c'est en raison d'un livre qui vient de sortir, Noyade d'État aux éditions Ballant, ouvrage signé par le neveu de l'explorateur Alexis de Dieuleveux qui fait ressurgir la thèse de la bavure militaire, celle d'un enchaînement d'ordre et de contre-ordre, une terrifiante méprise qui aurait fait de ces 7 Français dévalant sur 2 embarcations le fleuve Zaïre des cibles désignées, des hommes à abattre. Alexis de Dieuleveux est notre invité, fil rouge dans cette émission spéciale, et il nous dira comment il a pu, à travers ses recherches, la documentation et de nouveaux témoignages, comment il a pu nourrir cette thèse qui n'est pas nouvelle mais qui redevient soudainement explosive. Il lance d'ailleurs un appel au président de la République, Emmanuel Macron, afin que des documents sur le naufrage, toujours frappés du sceau confidentiel défense, afin que ces pièces soient déclassifiées, seul moyen, sans doute, d'accéder, après toutes ces années, à la vérité sur la mort de Philippe de Dieuleveux et de ses compagnons, vérité qui, faute de preuves, n'a cessé jusqu'à ce jour de s'envoler. Philippe de Dieuleveux, l'ombre d'une affaire d'État, l'heure du crime. On se retrouve tout de suite sur RTL.
Jean-Alphonse Richard sur RTL, l'heure du crime.
Heure du crime où nous évoquons ce soir la disparition en 1985 du présentateur vedette de la télé, Philippe de Dieuleveux. Un nouveau livre relance la piste du secret d'État, celle d'une bavure militaire. Ce mardi 6 août 1985, le Françoise et le Godelive, deux énormes radeaux pneumatiques conçus pour le rafting, sont posés sur les cailloux de l'île aux hippopotames, au cœur de la jungle zaïroise, prêt à s'élancer sur un fleuve rugissant et déchaîné. 42 000 mètres cubes secondes à cette période de l'année. Personne n'a alors tenté ce pari insensé. Tellement dangereux que sur les 9 hommes de cette expédition qui vise à descendre tous les grands fleuves de la planète, 2 préfèrent rester à terre. Le docteur François Laurenceau, ami d'enfance de Philippe de Dieuleveux, et Jean-Louis Amblard. Ils vont être les premiers témoins d'un terrifiant naufrage. Vers 8h45, Philippe de Dieuleveux, chef de l'expédition Africa Raft, et 6 coéquipiers s'apprêtent à partir à l'assaut de vagues hautes comme des immeubles. 10 à 15 mètres de haut, des vagues portefeuilles, comme on les appelle. Ce raid nautique, hors norme, a débuté à 2500 km de là, sur le lac Tanganyika, mais c'est la première fois que ses participants affrontent un tel paysage. Les 7 hommes embarquent, sanglés dans leurs gilets de sauvetage, mais sans être arrimés à leurs embarcations. Aussitôt mis à l'eau, les bateaux filent à toute vitesse vers l'aval du fleuve Zaïre. Dans un voile d'écume, on a du mal à les distinguer depuis la rive. Au bout de 300 mètres, les radeaux sont happés dans un méandre. Là, les 2 équipages disparaissent alors dans le fracas de l'eau qui percute les récifs, des rochers tranchants comme des rasoirs. Plus personne ne reverra vivant Philippe de Dieuleveux et ses compagnons. Les liaisons radio sont immédiatement coupées. Plus aucune trace des radeaux, Laurenceau et Amblard, bloqués sur l'île aux hippopotames, vont mettre un temps fou pour rejoindre la rive. Pas moins de 6 heures pour y parvenir avec l'aide de pêcheurs locaux. Ils espèrent que les équipages, qu'ils ont vus s'évanouir dans le paysage, ont pu accoster plus loin. Philippe de Dieuleveux est un baroudeur qui a la réputation de se sortir des situations les plus dangereuses. Pas une minute, les 2 hommes ne vont imaginer le pire. D'ailleurs, personne ne croit à une tragédie. Pas même Marc Gurnot, caméraman et ami de Philippe de Dieuleveux.
Soit ils ont eu un incident mécanique avec les moteurs, soit ils ont eu un incident avec les bateaux, ils ont pu déchirer un des bateaux. Mais encore une fois, c'est un petit peu comme le Titanic, sauf que là, il y a deux côtés, donc ça ne peut pas couler. Soit ils ont eu un problème qu'on a du mal à imaginer, mais à mon avis, il ne faut pas s'alarmer trop tôt. C'est l'Afrique, c'est très difficile de communiquer. La région où ils sont est très accidentée, donc pour les liaisons radio, c'est pas facile. Je crois que si après le 15 août, on n'a pas de nouvelles vraiment sérieuses, là, il faudra s'inquiéter.
Bonsoir Alexis de Dieuleveux.
Bonsoir à tous.
Vous êtes le neveu de Philippe de Dieuleveux, le fils de son frère Jean. Vous publiez ce livre, Noyade d'État, aux éditions Balland. Pourquoi Alexis de Dieuleveux, en quelques mots, revenir aujourd'hui sur cette tragédie? Tout n'a pas été dit, tout n'a pas été écrit, c'est ça?
Vous venez de le dire, tout n'a pas été dit. J'ai écrit ce livre avant tout pour mon père, Jean, le frère de Philippe.
Qui s'est longtemps battu pour avoir la vérité.
Qui s'est battu 30 ans pour la vérité. Il s'est battu 30 ans pour la vérité, il n'a jamais cru à cette thèse officielle, le premier jour où il est arrivé à Kinshasa, à l'ambassade de France. Il s'est battu un petit peu seul, avec l'aide de ses parents, avec ses frères, les frères de Philippe, mais seul face à un mur, face à l'État.
Alors vous dites qu'il n'a jamais cru à cette thèse, la thèse effectivement de la noyade, de l'accident, on est d'accord. Pourtant, dans ce décor dantesque, pourquoi ne pas adhérer à cette thèse qui paraît évidente?
Les rapides d'Inga sont d'une extrême dangerosité. Je ne les ai pas vus personnellement. J'ai eu l'occasion d'aller à Kinshasa, de me rapprocher de quelques rapides qui m'ont impressionné. Et je crois que c'était un dixième ou un centième d'Inga. Donc le lieu est extrêmement dangereux et il y a de quoi se noyer, absolument. Mon père, dès qu'il est arrivé sur place, il a été très mal accueilli. Il arrive, il est militaire, officier, commandant. Il est accueilli par le vice-consul de France à Kinshasa. On lui confisque son passeport.
Alors que c'est un, il faut rappeler que votre père, c'était un militaire, etc.
Et surtout qu'il est envoyé là-bas en mission. Il est parti travailler à Riyad. Il a décidé, dès qu'il a appris la disparition de Philippe et de son expédition, tout de suite, il s'est dit, il s'est passé quelque chose.
Pourquoi? Parce qu'il se sent rejeté, c'est un accueil qui n'est pas bon pour lui, donc il se dit, on me cache quelque chose?
Oui, il arrive à Kinshasa. Il est en mission, je le répète, parce qu'il quitte Roissy sur une permission. Il quitte son travail, il prend des jours de congé pour enquêter et surtout pour retrouver son frère. Et là, on l'appelle pour dire, vous ne pouvez pas partir sur un voyage privé comme ça, on vous met en mission.
Alors tout de même, j'insiste, et je me fais un petit peu l'avocat du diable, mais effectivement, on a dit aussi, par exemple, que les équipages autour de Philippe de Dieuleveux n'étaient pas très bien préparés à une telle expédition, qu'il n'y avait pas de spécialistes du rafting. Est-ce que c'est vrai?
C'est vrai, mon père ne s'est pas trop penché sur l'expédition elle-même. Il savait que Philippe faisait beaucoup d'expéditions, il avait beaucoup d'aventures, il suivait ça de loin. Après, il a eu effectivement un petit regard. C'est vrai que la composition, elle est surprenante. C'est un groupe d'hommes qui ne se connaissent pas.
Hétéroclites.
Ouais, certains, il y en a un qui arrive juste avant le départ, alors qu'il y a un an de préparation. Il y en a qui arrivent en cours de route, il y en a qui partent en cours de route. Il n'y a pas une bonne ambiance, il n'y a pas une bonne solidarité, il n'y a pas d'esprit d'équipe. Et ça, c'est Philippe qui témoigne tout cela à Jean. Philippe ne sent pas cette expédition, il n'est pas bien.
Il n'est pas bien parce que c'est trop risqué ou parce qu'il y a quelque chose en plus? On va en parler, évidemment.
Il y a autre chose pour mon père.
Laurenceau et Amblard, les deux hommes qui n'ont pas embarqué, vont donner l'alerte que deux jours après la disparition des bateaux, le temps d'avoir été entendu par la gendarmerie zaïroise qui garde à cet endroit un barrage stratégique, le barrage d'Inga, puis avoir regagné le port de Maladie, à 40 km de là, c'est ici que les deux hommes prendront conscience que c'est un drame qui s'est joué sur le Zaïre. Le mystère Philippe de Dieuleveux, accident ou noyade d'État? On se retrouve tout de suite dans l'heure du crime.
Jean-Alphonse Richard sur RTL.
Et l'heure du crime.
Heure du crime consacrée à la disparition de Philippe de Dieuleveux avec Noyade d'État, le livre révélation d'Alexis de Dieuleveux. Après le naufrage, les militaires sont à pied d'œuvre, une enquête tortueuse commence. Il faut attendre deux jours, le 8 août 1985, pour que l'ambassade de France à Kinshasa soit prévenue de la disparition de l'animateur aventurier Philippe de Dieuleveux et de six de ses coéquipiers. Le temps que les deux membres de l'expédition qui avaient refusé d'embarquer, trop risqué, puissent quitter le fleuve Zaïre et rejoindre la civilisation. La 31e brigade parachutiste zaïroise, encadrée par des militaires français, puis le 2e REP, mène les recherches. Le fleuve, tumultueux, est survolé depuis un hélicoptère. Le jour qui suit, enfin un signe de vie. Du moins, le croit-on. Les deux bateaux sont retrouvés. Le Godelive est à 300 mètres à peine de son point de départ, retourné, moteur détérioré. Le Françoise, plus en aval, est intact, mais aucune trace humaine. Dans les jours qui suivent, des affaires des équipages sont retrouvées dans un village. Rien d'étonnant, les pêcheurs du coin collectent tout ce que charrie le fleuve. 23 jours après le drame, un premier corps est retrouvé, identifié grâce à sa dentition, celui du Belge Guy Collette. Cause de la mort, selon le légiste, noyade. Le 6 septembre, un deuxième corps, un buste atrocement mutilé à 90%, disent les militaires, est découvert. À la morgue de Kinshasa, le docteur Nzuzi Ntula est affirmatif. C'est bien le corps de Philippe de Dieuleveux. Le 11 septembre, le consul de France envoie un téléx à Jean de Dieuleveux, le frère de l'animateur. Le corps de Philippe a été retrouvé et a pu être identifié. On saura, un mois plus tard, avec la contre-autopsie de l'Institut médico-légal à Paris, qu'il n'en est rien. Ce corps restera à jamais anonyme. Sans doute le premier mystère dans une affaire qui va susciter davantage de questions que de réponses. Alexis de Dieuleveux, on s'arrête un instant sur cette première phase, si je puis dire, des investigations. Et on va les prendre, si vous voulez bien, dans l'ordre. A priori, un naufrage accidentel, hein, c'est la thèse qui est développée d'entrée. Parmi les indices, il y a ces deux bateaux. Qu'est-ce qu'on peut en dire de ces deux bateaux? Est-ce qu'ils parlent?
Ils peuvent parler, oui, parce qu'il y a un bateau qui est complètement désossé. Il n'y a que l'armature métallique qui reste. Mm-hmm. C'est très surprenant. Les boudins ont disparu. Il y a un autre qui est intact, mm-hmm. qui aurait eu quelques chocs. Le Françoise, le bateau de Philippe. Les rafts avaient des postes radio militaires insubmersibles avec des grandes antennes. L'antenne du Françoise est intacte, le bateau ne s'est pas retourné. On sait que ce bateau a accosté. Et surtout, il y a des témoins. Et on n'en parle pas assez des témoins. Aujourd'hui, on parle d'un témoin, qui est l'ingénieur Atunga Tunasi, un ingénieur zaïrois, qui lui dit avoir vu trois blancs accoster sur une plage en face d'Inga. Et puis le lendemain, il dit « trois blancs, trois noirs, le 6 août, le 7, il ne sait plus ».
Oui, alors, on ne sait pas très bien à quel moment il a vu ces personnes. Hein.
Alors, la mémoire ou une pression. On ne parle pas des autres témoins. Ce n'est pas un témoin oculaire dans cette histoire. C'est cinq témoins et on n'en parle pas. Ce livre parle de ces témoins. Il y a trois témoins qui sont des techniciens du barrage, qui étaient sur les bords du fleuve, qui savaient que les bateaux allaient passer, sont descendus les voir. Ces techniciens ont été interrogés par le lieutenant-colonel Loïc de Chazal, médecin militaire, un des premiers officiers à s'être rendu sur place. Il les a vus, il a récolté leurs témoignages. Trois témoins, trois versions identiques. Trois blancs sur une plage en face.
Extrêmement troublant, et là, on donne des dates, on donne des heures, on sait à peu près.
Ils ont disparu le 6, de Chazal a dû intervenir le 8, je pense. Ce qui est important, c'est que cet officier français qui a ces témoignages rédige son rapport avec ses conclusions, et l'ambassade de France lui demande de modifier son rapport.
Vous êtes sûr de ce que
je suis sûr de ça, témoignage de son épouse.
Que vous reprenez dans cet ouvrage.
Absolument. Et je termine sur le cinquième témoin, c'est un officier zaïrois, qui était sur place et qui lui a vu trois blancs également accostés sur cette plage. Et là, c'est le témoignage de Jean-Paul Orlando. Jean-Paul Orlando est le pilote qui a permis à Philippe de faire une reconnaissance aérienne au-dessus d'Inga. Et Jean-Paul Orlando s'est posé quelques jours après sur cet aérodrome d'Inga. Il a rencontré un officier zaïrois qui lui a témoigné ce qu'il avait vu. Cet officier zaïrois a disparu. Jean-Paul Orlando ne l'a plus jamais revu.
Alors ça, c'est extrêmement troublant, effectivement, ce faisceau de témoignages concordants que vous révélez dans cet ouvrage. On va passer, si vous voulez, à la deuxième phase, c'est la découverte des corps. Parce que là aussi, on peut, effectivement, les corps peuvent parler. Qu'est-ce qui se passe autour un petit peu de ce micmac, notamment autour de ce corps dont on dit qu'il est celui de Philippe de Dieuleveux, ça n'est pas celui-là. Qu'est-ce qui s'est passé?
Je voudrais juste revenir un instant sur le corps de Guy Collette. Vous avez parlé de cette dentition. Il a été identifié par un bijou, sa chaîne en or. Et son épouse a accepté ce corps sans contre-autopsie. Elle a accepté, elle a reconnu la chaîne. Le corps est rentré en Belgique dans un cercueil plombé. La famille n'a pas vu la dépouille. Affaire Colette, classée. Mon père avait un gros doute sur ce corps. Il a eu les rapports dentaires, et là on revient à dentition, de Guy Collette. Le rapport militaire qui décrit la dentition de Guy Collette le dit clairement. La dentition présentait effectivement quelques vides dus à des chocs, mais les dents, bien que déchaussées, paraissaient saines et présentaient aucune trace de soins dentaires. Or, le médecin dentiste de Guy Collette a donné toute une liste de soins dentaires de son patient Guy Collette. Les rapports de dentition ne collaient pas.
Le deuxième corps, qui lui est extrêmement détérioré, à 90%.
Exactement. Et le deuxième corps, ça, c'est important parce que c'est la pièce clé de ce dossier. Je vous ai dit que mon père était très mal accueilli à Kinshasa. Il a rencontré un attaché militaire qui a même insulté mon père. Et qui a dit « Mon père, mais enfin, qu'est-ce que vous faites ici avec vos amis? Votre frère est mort noyé. » Et là, mon père le regarde dans les yeux et lui dit « Je ne croirai à la mort de mon frère que lorsque je verrai son cadavre à mes pieds. » Eh bien, cadavre, ils en ont trouvé un. Ce fameux corps dont vous parlez, mutilé à 90%. Un corps qui n'avait pas de tête, pas de main, pas de sexe, pas de viscères et pas d'extrémité de pied. Et là, il y a une autopsie qui se fait à Kinshasa par des médecins zaïrois. Et la conclusion est le corps se rapproche le plus des caractéristiques morphologiques de Philippe de Dieu le Veut. Se rapproche le plus.
Se rapproche le plus, effectivement. Mais en tout cas, il conclut finalement que ça peut être Philippe de Dieu le Veut.
Les Zaïrois disent qu'il se rapproche le plus. Mais par contre, ce rapport est interprété par le vice-consul de France, Michel Dupin, qui dit « c'est Philippe ». On passe d'un corps qui se rapproche le plus à Philippe à un corps « c'est Philippe ».
Mais tout cela, Alexis de Dieu le Veut, sera infirmé par la contre-autopsie.
Pourquoi
on aurait finalement donné des corps qui ne seraient pas ceux de Guy Collette
Il y a eu une réelle volonté d'étouffer cette affaire très dérangeante. La famille de Dieu le Veut s'est battue, j'entends par la famille de Dieu le Veut, mon père Jean, ses parents et ses frères. Ils sont battus car ils n'ont pas cru un instant à cette mascarade de noyade. Le corps de Guy Collette a été accepté. Le corps supposé de Philippe aurait pu être accepté. C'est la famille qui s'est battue. Quand on dit qu'il y a eu une contre-autopsie à Paris, mon père s'est battu pour cette contre-autopsie.
Oui, ça a été long à se dessiner.
Ça a été long. Mon père a dû prendre un avocat et il s'est avéré que ce corps n'était pas Philippe. Mais il a fallu le prouver pour ça.
Les questions légitimes de la famille de Dieu le Veut, notamment celles que pose son frère Jean, se heurtent pour l'instant le plus souvent à des silences. Alors, si l'expédition s'était tout simplement retrouvée en zone interdite, naviguant dans des eaux sensibles et sous le regard de soldats ayant autorisation de tirer à vue. Le mystère Philippe de Dieu le Veut, accident ou noyade d'État? C'est l'heure du crime sur RTL, à tout de suite.
L'heure du crime sur RTL, Jean-Alphonse Richard.
La disparition de Philippe de Dieu le Veut, noyade d'État, le titre du livre de son neveu Alexis de Dieu le Veut. Un mystère qu'on évoque ce soir dans l'heure du crime. Presque 2 mois après le naufrage, malgré 2 bateaux retrouvés et 2 restes de corps repêchés, aucune trace des aventuriers qui voulaient affronter le fleuve Zaïre. Ils sont introuvables et en premier lieu, bien sûr, Philippe de Dieu le Veut. Dans ce secteur, l'expédition Africa Raft naviguait dans une zone sensible, non loin d'un barrage zaïrois stratégique qui alimente la riche région minière du Chaba. Un ouvrage protégé par l'armée qui, à ce moment-là, craint des incursions de mercenaires dans cette région instable. La veille de la descente des rapides, le chef des gendarmes du barrage a été prévenu de la présence d'hommes dans le secteur par un pêcheur. Il a alors redouté une attaque. Peut-être une équipe de gros bras à la solde de l'Angola toute proche et avec qui les relations sont tendues. Le fait est que l'état d'alerte est déclenché dans le secteur. Les gendarmes zaïrois diront n'avoir été prévenus que le jour même de la descente des rapides par une équipe de sportifs. Une expédition qui n'aurait pas toutes les autorisations pour naviguer dans les rapides d'Inga. L'un des membres de l'expédition resté à terre, le rescapé Jean-Louis Amblard, va confirmer ce contexte sécuritaire très particulier.
Mon idée, elle est très simple. C'est une idée qu'on a eue 2 ou 3 heures après, quand on est arrivé sur la rive. On a été arrêté par l'armée. Ils étaient dans un état d'agitation intense. Quand on leur a montré qu'on avait toutes les autorisations nécessaires pour faire cette expédition, ils nous ont dit on n'était pas au courant, on espère qu'il n'est rien arrivé aux autres, parce qu'on avait ordre de ne laisser passer personne. Ça veut bien dire ordre de ne laisser passer personne, c'est tirer.
Impossible de savoir si les occupants du raft Françoise et du raft Godelive ont été pris pour des mercenaires. Aucun impact de balle n'aurait été relevé sur les embarcations ou sur les affaires récupérées par les pêcheurs du coin. Aucune preuve apportée d'une fusillade. Reste que la thèse d'une bavure militaire de l'armée zaïroise ne va cesser de revenir dans le dossier Dieu le Veut. Démentie par les plus hautes autorités, mais régulièrement alimentée par des témoignages qui, il faut bien le dire, ne sont pas toujours vérifiable. Alexis de Dieu le Veut, invité de l'heure du crime, votre livre s'appelle « Noyade d'État ». Tout est dit dans votre titre. Vous ne croyez pas à l'accident, vous défendez la thèse de la bavure militaire, mais quels éléments avez-vous réunis pour étayer cette version?
Une succession de faits et de témoignages. Vous parlez à l'instant des boudins, l'absence de trous dans les boudins, je crois. Vous parlez des balles.
L'absence
d'impact de balles. Le raft Godelive n'a plus de boudin. Pourquoi? De peur d'y trouver des trous?
Ils ont été arrachés ou peut-être récupérés tout simplement par les villageois?
Les villageois, effectivement, on a retrouvé une partie des boudins chez les villageois, mais on n'a jamais pu reconstituer complètement le raft. Mm-hmm. Des parties ont disparu. On a parlé des deux témoins, des deux rescapés, Jean-Louis Amblard, qu'on a entendu l'instant, et qui d'ailleurs m'a gentiment laissé un petit message suite à la lecture de mon livre. Et j'étais très touché par son message, où il me parle effectivement de cette bavure zaïroise. Revenons sur les témoins. Je pense que les auditeurs veulent entendre des faits concrets,
bien sûr,
qu'ils ne connaissent pas.
Bien sûr.
On parle rarement des deux ingénieurs américains qui étaient présents sur le barrage Dinga, et ils témoignent de l'extinction des feux la veille du drame. Et ils témoignent également de la présence de militaires qui arrivent en convoi au bord du fleuve. Et ils témoignent également des menaces de tir, on peut dire mettre en joue, en direction des rafts. Et il se trouve que les deux rescapés, le docteur François Laurenceau et Jean-Louis Amblard, suite à leur interrogatoire, on leur a demandé de signer un papier comme quoi ils n'avaient entendu aucun coup de feu. On parle de noyade, pourquoi parler de coup de feu ?
Alors là, vous parlez du témoin et de l'extinction effectivement des feux la veille, tout simplement parce que, je l'ai dit dans ce récit, l'alerte a été donnée. On craint une incursion de mercenaires ou de militaires étrangers dans cette région du Zaïr. Est-ce qu'il y a un mot d'ordre, effectivement, pour tirer à vue à partir de ce jour-là ?
Il y a un avertissement. Un avertissement que reçoivent les Zaïrois d'une menace d'attaque sur le barrage d'Inga par un commando cubain. Ce qui est intéressant, c'est de savoir mais d'où vient cet avertissement. L'ex-officier zaïrois Okito Benebene des services secrets témoigne qu'ils ont été alertés par un service ami. On entend par service ami un service français. Alors on peut effectivement discréditer ce monsieur, il était...
Alors, on connaît ce témoignage. Absolument. Qui est d'ailleurs controversé. Hein. Il a été contredit par plusieurs personnes.
Et permettez-moi de dire qu'il n'a pas été démenti par une personne quand même reconnue, qui est Christian Proutot. Christian Proutot est le chef de la sécurité de l'Élysée.
Les gendarmes de l'Élysée.
Et lui ne dément pas l'envoi d'un message des services français secrets à Kinshasa pour les prévenir d'une menace d'attaque alors que les services ont conscience et ont connaissance de la présence de Philippe sur les lieux. Ce message envoyé mettait Philippe et son équipe en danger directement.
Donc ce que vous nous dites, c'est que finalement la France, sans doute maladroitement, aurait exposé cette équipe de sportifs qui s'apprêtait à descendre le fleuve Zaïr sans le vouloir. Et que cette équipe, donc conduite par Philippe de Dieuleveux, serait tombée dans une espèce de traquenard.
Mon père parle de trahison. Mon père parle d'une affaire franco-française. Il n'en a jamais voulu aux Zaïrois qui ont tiré. Ils ont été mis en alerte par un service ami français. La réaction de Mobutu était tout à fait normale. Il a mis ses hommes au pied du barrage pour stopper, pour neutraliser, pour arrêter cette expédition. Le jour J, on pense que ça dérape. Mon père, Jean, ne parle pas d'un ordre de tuer, mais plutôt d'une bavure. Ça a dérapé, il y a eu des morts, il y a eu des arrestations.
Et ensuite, on se serait débarrassé de ces corps dans le fleuve Zaïr, hein, si on suit, ou ailleurs.
Au pays de Mobutu, vous ne retrouvez pas de corps. Il n'y a pas de tombe, les gens disparaissent. Mon père disait, ils sont soit mis dans un bain d'acide, soit jetés au crocodile. Mais chez Mobutu, les corps, il n'y en a plus.
Est-ce que cette expédition, menée donc par Philippe de Dieuleveux, est-ce que cette expédition avait toutes les autorisations? Est-ce que les autorités zaïroises, et notamment celle du fameux barrage Dinga, qui était un lieu stratégique, on l'a dit, un lieu très sensible, est-ce que ces autorités étaient informées de ce passage?
Absolument. Il y a un télégramme qui autorise l'expédition. Et il y a les noms des aventuriers sur ce télégramme pour les autoriser pour naviguer sur le fleuve et pour se rendre jusqu'à Banana, à l'embouchure de Zaïr. Et d'ailleurs, ce télégramme qui autorise l'expédition de naviguer devant Inga autorise même la visite du site d'Inga. C'est écrit sur le télégramme qui autorise le passage de l'expédition.
Qui plus est, il faut le rappeler, Philippe de Dieuleveux avait reconnu les lieux, hein, notamment avec...
C'est intéressant.
Avec
un pilote.
Un pilote d'avion.
Mais Philippe a tenu à reconnaître les lieux seul. Le pilote a fait une reconnaissance des lieux, donc survolé les rapides d'Inga, avec quelques membres de l'expédition. Et Philippe a voulu en faire une tout seul avec ce pilote. Et le pilote témoigne, Philippe n'était pas vraiment intéressé par les rapides. Il m'a demandé de tourner au-dessus des terres. Et ce pilote, on n'en parle jamais également, il est ce qu'on appelle HC, honorable correspondant, un bénévole de la DGSE.
Philippe de Dieuleveux, qui aurait donc été, tout comme les autres hommes embarqués sur les rafts, victime d'une fusillade. Beaucoup de monde, des journalistes, des militaires, des politiques vont alors s'interroger sur la personnalité même de Philippe de Dieuleveux et sur le but véritable, peut-être non avoué, on va essayer de le savoir, de son expédition au Zaïr. Les mystères de la disparition de Philippe de Dieuleveux au Zaïr, à suivre sur RTL dans l'heure du crime.
L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.
Heure du crime consacrée à la disparition inexpliquée de Philippe de Dieuleveux en 1985 lors d'une expédition. Noyade, bavure militaire, aurait-il pu être expressément visé ? Philippe de Dieuleveux a eu 34 ans, un mois avant de partir pour le Zaïre. On le connaît évidemment à l'époque pour la chasse au trésor, l'une des émissions les plus populaires de la télé. Salopette rouge, Dieuleveux, sportif intrépide, sillonne le ciel français en hélicoptère. On sait moins alors qu'il est capitaine de réserve au sein du service Action de la Direction Générale de la Sécurité Extérieure, la DGSE, les services d'espionnage français. C'est son frère, Jean, qui révélera cette étiquette 9 ans après le naufrage. Appartenir à la réserve de la DGSE ne signifie nullement qu'on peut être envoyé en mission de renseignement au bout du monde. Dans le cas de Dieuleveux, les choses sont plus sensibles. Au regard des mystères qui très vite entourent sa disparition, là encore les suppositions vont bon train. Et cette question qui revient en boucle, Philippe de Dieuleveux n'était-il au Zaïre que pour une expédition sportive et spectaculaire qui devait donner lieu à un documentaire filmé et à un grand reportage dans Paris Match dont le photographe a péri dans le naufrage, ou cherchait-il autre chose ? Alexis de Dieuleveux, vous êtes donc le neveu de Philippe de Dieuleveux et invité de cette heure du crime. Est-ce que, selon vous, celui qui était un présentateur vedette de la télé avait une double casquette et continuait à travailler pour les services de renseignement français ?
Philippe s'était confié à mon père Jean en 1977 et lui avait avoué qu'il faisait partie des services. Au moment de sa disparition, mon père, qui savait que son frère était dans les services, l'a annoncé et s'était nié. C'était nié par les politiques et par les militaires. Non, Philippe n'a rien à voir avec l'armée, Philippe n'a rien à voir avec les services. Or, mon père a pu prouver concrètement, avec cette histoire du faux cadavre qu'on a voulu remettre à la famille, parce qu'il a fallu prouver que ce n'était pas Philippe. Donc mon père a fait des recherches sur son dossier médical pour retrouver des radios, et découvre que le livret médical de Philippe se trouve au 89e BS. Alors qu'est-ce que le 89e BS ? Eh bien, c'est le bataillon des services, c'est une unité militaire administrative et de soutien qui regroupe les personnels militaires affectés à la DGSE. Mmh. Le livret médical de Philippe est dans ce service. Mon père savait à ce moment-là qu'on lui mentait, que l'amiral Lacoste mentait, que les politiques mentaient sur le statut de Philippe.
Donc il était donc dans la réserve de la DGSE, ouais. Hein, ça, on l'a bien dit, et ça sera d'ailleurs confirmé par le service de renseignement. Est-ce qu'il était en mission commandé le jour de sa disparition ?
Il ne l'était pas, et ça, mon père, on a la conviction, parce qu'il a eu, une parole d'un de ses amis officiers, donc la parole d'un officier, qui est le chef des opérations du service Action de la DGSE. Mm-hmm. Ce n'est pas n'importe qui.
C'est un très haut grade, effectivement.
Voilà, le colonel Desgrais de Loup, qui a confirmé à mon père que Philippe n'était pas en mission pour la DGSE. Et ce colonel a aussi maintenu à mon père la thèse de la bavure.
Il lui a confié oralement, je suppose, il n'y a pas
oralement.
Eu d'échange écrit.
Mais il y a eu tellement d'autres témoignages. On parle du patron de la DGSE, l'amiral Pierre Lacoste, qui, après quelques années, l'amiral est décédé, je crois, en janvier 2020. Il a reconnu, en off bien sûr, que la thèse de la noyade n'était pas crédible et que la réalité était tout autre. Il a même reconnu après la thèse de la bavure et la mort de Philippe par assassinat. Et on parle du patron de la DGSE. Et on vient encore nous voir pour nous dire où sont les preuves. Moi, j'ai envie de dire, de qui se moque-t-on ? Cette histoire n'est que mensonge et manipulation.
Donc, il y a toute une somme de témoignages, effectivement, de très hauts gradés de l'armée française qui iraient, selon vous, dans le même sens. Pourquoi ces témoignages, finalement, jusqu'à présent, jusqu'à aujourd'hui, sont restés lettres mortes ?
La loi du silence. On ne parle pas. Mon père devait écrire ce livre. Il voulait écrire un livre. Il nous le répétait, nous, ses enfants, j'ai un frère et deux sœurs. Un jour, il y aura un livre. Alors c'est étrange qu'il n'a jamais dit « je vais écrire un livre ». Il y aura un livre. Mm-hmm. Pourquoi il ne l'a pas écrit ? Ça l'ennuyait parce que mon père était, quand il a quitté l'armée, était plus artiste, il peignait, il écrivait des chansons, des poèmes, des textes. Et ce type d'écriture l'ennuyait. Mais il aurait dû écrire ce livre. Ça n'a pas été fait plus tôt. Donc maintenant, effectivement, ça fait 35 ans. Il est temps que tout cela cesse.
et c'est vous qui avez pris le relais effectivement pour écrire ce livre. J'aimerais qu'on revienne un petit peu sur ce que vous disiez tout à l'heure, qui me paraît très intéressant. C'est l'état psychologique de Philippe de Dieuleveux. Vous dites depuis le début de cette émission qu'il avait l'air inquiet, qu'il n'était pas très à l'aise lors de ce raid. Alors effectivement, on peut peut-être penser qu'il avait un petit peu la trouille, tout simplement, d'affronter de tels rapides, etc., d'avoir emmené tout ce monde en expédition. Vous parliez de repérage en avion où le pilote dit qu'effectivement il pense à autre chose. Alors, est-ce que vous pouvez détailler un petit peu cet état et pourquoi il aurait toutes ces inquiétudes?
Philippe avait effectivement de casquettes, était capitaine dans la réserve opérationnelle du service action de la DGSE. C'était un soldat dans l'âme, mais il était avant tout un reporter, un journaliste, un homme de l'image. Donc d'un côté, on a quelqu'un qui est dans le renseignement, le silence, le secret. Et de l'autre, on a quelqu'un qui est dans l'information, la divulgation, le partage. Alors est-ce que sa curiosité de reporter n'aurait pas pris le dessus sur son devoir de réserve et de discrétion? Est-ce que il dérangeait? Est-ce que Philippe dépassait les limites? A-t-il voulu mettre son nez dans des affaires qui ne le regardaient pas? C'est possible. Mmh. Et c'est vrai qu'il a témoigné à mon père qu'il ne sentait pas cette expédition. Philippe s'était livré à Christian Proutot lors de son séjour à Paris. Et il lui avait dit que...
Avant de partir donc, hein.
Donc avant de partir, il a fait un aller-retour sur Paris, juste avant le drame, quelques jours avant le drame d'ailleurs. Il est monté sur Paris et d'ailleurs il a rencontré, parce qu'il devait retrouver sa femme Diane, qui allait accoucher de leur troisième enfant. Il a été monté pour la naissance de son troisième enfant. Il n'est pas resté pour la naissance, il est reparti un peu contraint.
Ce qui ne lui ressemblait pas.
Je ne peux pas vous en dire plus là-dessus, mais c'était oui, il n'est pas resté pour la naissance. Il y avait autre chose, il y avait une pression. Il a rencontré Christian Proutot et là Christian Proutot lui dit... Ça devient intéressant, ton expédition, tu vas arriver sur les rapides d'Inga. Et Philippe reconnaît qu'il s'ennuie un petit peu pendant l'expédition. Il dit, ça va devenir effectivement intéressant, mais c'est pas Inga, c'est autre chose. C'est ce que dit Philippe à Christian Proutot. C'est le témoignage de Christian Proutot.
Qui vous a confié, Christian Proutot.
Qui l'a confié sur les ondes.
Ex-gendarme de l'Élysée.
Absolument, il a confié ça sur les ondes, tout à fait.
Qui a confié. Mais ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que Philippe de Dieuleveux avait des rendez-vous secrets, des personnalités à voir.
Philippe a demandé également à Christian Proutot lors de cette réunion que Christian Proutot lui procure des armes et des moyens radio légers. Je vous ai parlé des radios...
Des armes.
Mais des armes, des petites carabines de calibre 22 Lorif.
Pour se défendre plutôt des animaux.
Oui, enfin, c'est comme des balles, vous tuez avec une 22 Lorif. Hein. Et des moyens radio légers. Pourquoi? Les rafts étaient déjà équipés de gros postes Thompson militaires, insubmersibles. Et d'ailleurs, l'expédition testait ces derniers postes de l'armée. Et ces radios moyens légers, on se pose la question, est-ce que Philippe ne voulait pas quitter le fleuve pour aller un peu plus dans les terres avec ces radios légères?
Ou tout simplement être beaucoup plus tranquille et en confidentialité avec ce qu'il pouvait dire sur les antennes. 35 ans après le naufrage, les thèses se superposent et les doutes ne s'effacent pas. Celle de la noyade a été officiellement retenue par les autorités aïroises et françaises. En 2008, la famille de Philippe de Dieuleveux demande la réouverture de l'enquête après la publication d'une enquête dans la revue 21. Les policiers de la brigade criminelle établiront toutefois qu'un document produit par ce journal, un procès-verbal d'audition de Philippe de Dieuleveux après sa disparition, que ce document est un faux. L'enquête ne sera donc pas relancée. La disparition de Philippe de Dieuleveux, la France cache-t-elle la vérité? A tout de suite dans l'heure du crime.
L'heure du crime, Jean-Alphonse Richard, jusqu'à 21h sur RTL.
Heure du crime où nous revenons ce soir sur le mystère Philippe de Dieuleveux, dont la disparition en 1985 dans les flots du fleuve Zaïre est toujours inexpliquée. Pas de corps, pas de traces, pas de message. Philippe de Dieuleveux a été emporté par les eaux tumultueuses du fleuve Zaïre. C'est la version retenue et avancée par les autorités françaises qui ont toujours balayé des thèses plus sulfureuses. Le fait que Dieuleveux et ses six camarades de l'expédition Africa Raft aient pu être abattus, victimes d'une bavure de l'armée zaïroise, ou bien que l'ex-animateur télé, réserviste des secrets français, aurait pu être en mission dans le secteur, se servant du prétexte de l'expédition pour se livrer à on ne sait quelle rencontre. La France, et notamment le ministère de la Défense, a toujours affirmé qu'il n'y avait plus de documents confidentiels sur la disparition de Philippe de Dieuleveux, plus aucune pièce. Le message des autorités est depuis des années le même. Il serait vain de chercher autre chose qu'une noyade accidentelle pour expliquer ce drame. Alexis de Dieuleveux, vous êtes le neveu de Philippe de Dieuleveux et notre invité fil rouge ce soir dans l'heure du crime, auteur de Noyades d'État qui défend, on l'a compris, la thèse d'une bavure militaire. Il vous reste des documents à voir, tout n'a pas été dévoilé, des pièces classées secret défense, notamment, en tout cas le ministère de la Défense lui dit ça n'existe pas.
Effectivement, le ministère de la Défense reconnaît l'appartenance de Philippe au service, mais il reconnaît également que Philippe n'était pas parti en mission pour la DGSE dans le cadre de son expédition. Et de ce fait, il n'aurait aucune pièce concernant la disparition de Philippe le 6 août 85.
Il n'est pas en service, donc il n'y a pas de document.
D'ailleurs, comme mon père savait effectivement qu'il n'était pas en mission pour la DGSE, il faut savoir que la DGSE a envoyé des agents enquêter officieusement après la disparition.
Ce qui est d'ailleurs un classique, dès lors qu'un membre des services secrets est mis en cause dans une affaire, il est très souvent le cas que des agents de son service aillent enquêter.
Et le retour, pardonnez-moi Jean-Alphonse, mais le retour est intéressant parce que le verdict de ces agents officieux est clair, une bavure saïroise.
Mais comment savez-vous ça ?
J'étais en contact avec un de ces agents, donc c'est du off également, voilà, je ne peux pas dire de nom, je n'ai pas la trace écrite.
Donc vous avez un témoignage,
ce sont des témoignages, mais sérieux.
Vous avez aujourd'hui la certitude qu'il y a toujours dans les archives du ministère de la Défense, un dossier Philippe de Dieuleveux qui n'a pas été ouvert ou qui reste fermé.
Fermé, détruit, ça fait 35 ans. Vous savez, mon père disait dans les affaires d'État, la justice est dépendante du pouvoir. C'est grave de dire ça. Mais il avait raison, parce que Africa Raft en est la démonstration. Mmh. Il y a une telle succession de faits dans ce livre qui démontre le mensonge et la manipulation et qui démontre complètement la thèse de la noyade. Alors effectivement, on va venir nous voir pour nous dire où sont les preuves. Mais alors, qu'est-ce qu'une preuve si ce n'est la démonstration de la réalité d'un fait ? Ici, vous avez des faits qui se succèdent, fait après fait. Alors s'il y en a un, effectivement, c'est peut-être léger, et je pense que je ne serai pas ce soir devant vous, mais ce livre en est rempli.
Vous avez des faits et des témoignages que vous avez vous-même recueillis et que vous avez collectés au fil de votre enquête. Alors, il y a tout de même un passage extrêmement important dans votre livre. À la fin de votre livre, c'est cette lettre ouverte à Emmanuel Macron, à la fin de votre ouvrage. Que dites-vous au président de la République ? Qu'est-ce que vous lui demandez ?
Déjà, moi, je ne me serais jamais permis d'écrire une lettre ouverte au président de la République sans avoir une succession d'éléments sérieux à présenter.
Sans avoir la certitude.
Exactement. Et moi, j'ai les éléments de mon père qui s'est battu pendant 30 ans. J'ai les documents chez moi. Je les consulte. Et oui, j'y crois à 100%. Tout ce qui est dit est vrai. Ce sont des faits. Il n'y a aucune interprétation. C'est un livre, il n'y a pas de polémique. Il n'y a pas d'attaque personnelle. Il n'y a pas de provocation. Ce n'est absolument pas le but de ce livre.
C'est vrai, je l'ai lu. Vous racontez une histoire. Mais ce que je veux dire par là, qu'est-ce que vous demandez au président de la République ? Qu'est-ce que vous lui dites ?
Je lui demande simplement de reconnaître les erreurs du passé. Cette histoire n'est que mensonge et manipulation. Je veux dire, combien de temps on va accepter le mensonge ? Combien de temps on va accepter de nous taire ? Il est enfin temps de rendre justice à Philippe qui n'est pas mort noyé. Alors oui, c'est vrai, je crie des vérités, mais c'est les vérités de mon père et je les cautionne. Il est mort il y a 5 ans, il s'est battu pour ça. Ce livre, je ne l'ai pas écrit seul, il était à côté de moi. Et ces paroles, je vais les porter avec lui, au plus haut niveau de l'État.
Et Alexis de Dieuleveux, vous demandez aussi au président de revoir le dossier, de le rouvrir, en tout cas de faire progresser une enquête qui aujourd'hui est à l'arrêt.
Je ne demande pas de rouvrir une enquête. Ça fait 35 ans. Ceux qui savent, s'ils se taisent à vie, on n'aura jamais, jamais la preuve de ce qu'on demande. Déjà, reconnaître cette thèse qui est l'assassinat, la bavure sur l'expédition Africa Raft, puis l'assassinat sur Philippe qu'on a arrêté vivant, ce serait déjà une grande victoire pour moi, pour mon père et pour Philippe. Je ne veux pas que mon père soit mort pour rien. Je veux donner du sens à son travail, à son enquête, et moi je veux rendre justice à mon parrain Philippe. Après, c'est vrai que je demande au président de la République certaines pièces au niveau du Quai d'Orsay, au niveau de la DG aussi, parce qu'il y a un message qui est parti alerter Mobutu d'une menace d'attaque. Il est où ce message ? Est-ce qu'il y a des traces de ce message pour le prouver ? Okito Bene en parle. Christian Proutot en dément pas. Je demande effectivement des traces de ce message.
Est-ce que vous pensez, très sincèrement, Alexis de Dieuleveux, qu'un jour le dossier Philippe de Dieuleveux sera définitivement éclairci ? Ou bien qu'on va rester dans l'ombre et le mystère ?
Mon père y a toujours cru. C'est pour ça qu'il n'a pas écrit ce livre, parce qu'il laissait le temps au temps. Il attendait que des gens parlent. Un jour, il a croisé Roland Dumas. Je crois qu'on ne l'a pas encore cité. C'est extraordinaire. Le ministre des Affaires étrangères, qui est derrière.
Ancien ministre des Affaires étrangères.
Absolument. Et qui était mandaté par notre président de l'époque, François Mitterrand, pour gérer cette affaire, pour camoufler cette affaire, pour étouffer cette affaire. Mon père, oui, pensait qu'un jour, peut-être, quelqu'un parlerait. Mais aujourd'hui, ce n'est pas trop le propos de mon livre. Mon livre, c'est de démontrer quelque chose. De démontrer qu'il y a du mensonge, de la manipulation et qu'on n'a pas tout dit. Là, vous allez découvrir l'histoire sous un autre angle. Vous allez dans les coulisses d'Africa Raft et des choses que les gens ne connaissent pas. Et ceux qui aiment Philippe, ceux qui s'intéressent à cette histoire, ils vont découvrir une histoire. Je raconte une histoire faite de vérité, de témoignages. Et je demande au président de la République qui a reçu ce livre, je lui ai envoyé ce livre, de le lire attentivement. Et puis, de ne pas fermer les yeux, de ne plus fermer les yeux, de ne plus se taire sur ce type de mensonge d'État.
Vous attendez aujourd'hui une réponse des plus hautes autorités de l'État, c'est ça? C'est le seul moyen de faire progresser ce dossier aujourd'hui?
J'en appelle directement au président de la République aujourd'hui, absolument.
Et pour votre famille, c'est parce que c'est aussi très important, c'est un combat que vous livrez depuis 35 ans maintenant.
C'est un livre hommage au combat de mon père, c'est un livre à la mémoire de Philippe pour ne pas l'oublier, c'est un livre vérité pour rendre justice à Philippe, et c'est un livre... que je veux très sincère, il est brut d'authenticité, j'y mets tout mon cœur. Il n'est pas question de gagner de l'argent avec ce livre. Tous les droits d'auteur sont reversés à une association, Aviation sans frontières. Moi, mon objectif, il est ailleurs. C'est la vérité.
Merci beaucoup, Alexis de Dieu le veut, d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime pour nous parler de votre ouvrage accusateur, Noyade d'État, aux éditions Ballant. Émission préparée par Justine Vigneault, Marie Bossard, réalisée par Marc Bisset. Merci à toute l'équipe et merci à tous pour votre fidélité.